Hébreux chapitre 7, à partir du verset 20. Hébreux 7, verset 20. Et dans la mesure où ce n'est pas sans serment qu'il est devenu sacrificateur, ceux-là, en effet, sont devenus sacrificateurs sans serment. Celui-ci, verset 21, en revanche, par un serment de la part de celui qui lui parle. Le Seigneur a juré et il ne le regrettera pas. Tu es sacrificateur pour l'éternité. Verset 22. C'est pourquoi Jésus est d'autant plus devenu le garant d'une alliance meilleure. Verset 23. De plus, là-bas, les sacrificateurs étaient nombreux, car la mort les empêchait de rester en fonction. Verset 24. Mais ici, il s'agit d'un seul qui, parce qu'il demeure pour l'éternité, détient un sacerdoce immuable. Verset 25, c'est pourquoi il peut aussi procurer le salut parfait à ceux qui s'approchent de Dieu par son intermédiaire. En effet, il vit pour toujours afin d'intercéder en leur faveur. À partir du verset 26, car c'est précisément d'un seul souverain sacrificateur, d'un tel souverain sacrificateur que nous avions besoin, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs et élevé au-dessus des cieux. Verset 27, qui, contrairement au souverain sacrificateur, n'a pas besoin jour après jour d'offrir d'abord des sacrifices pour ses propres péchés, puis pour ceux du peuple, car il a accompli cela une fois pour toutes en s'offrant lui-même en sacrifice. Verset 28. En effet, la loi établit comme souverain sacrificateur des hommes sujets à la faiblesse. La parole du serment, en revanche, qui est postérieure à la loi, institue, établit un fils parfait pour l'éternité. Il y a une semaine aujourd'hui à Breslau, à Breslau, comme je l'ai dit, s'est tenue cette réunion entre des extrémistes qui croient en un Dieu unique tel un doigt et qui ne pouvait pas encore se révéler ni ne s'est révélé depuis ce jour-là. J'ai dû y réfléchir à nouveau et j'en ai tiré de la joie en voyant quel privilège Dieu nous a accordé. Il ne s'agit pas simplement de savoir que Dieu est un. Il n'y en a jamais eu plusieurs et il n'y en aura qu'un seul pour l'éternité. Mais la question est bien celle-ci. Que veut ce Dieu unique? Quel est son plan pour l'humanité? Pourquoi a-t-il pris un nouveau départ en son Fils qui est parfait pour l'éternité en vertu de la parole du serment? Tu es mon Fils, aujourd'hui je t'ai engendré. Dieu a voulu depuis toute éternité des fils et des filles de Dieu issus de lui. Et Jésus-Christ est ainsi le premier-né d'entre les morts. Et nous lui serons semblables dans l'achèvement, la perfection. Si nous examinons attentivement les Écritures, nous lisons déjà dans Genèse 1, verset 2, Dieu a parlé, mais l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Que l'Esprit de Dieu descende et plane au-dessus des eaux, qu'il descende sur le Christ, le Fils, et que la voix s'écrie, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout, en qui j'ai trouvé tout mon bon plaisir. » Tout cela est pourtant magnifique et merveilleux. C'est pourquoi Dieu reste néanmoins le même Dieu, même s'il se révèle et se manifeste de différentes manières afin de réaliser son propre plan de salut avec l'humanité, qui consiste simplement à faire des enfants des hommes, des enfants de Dieu. J'ai pris une nouvelle conscience du fait que ce n'est pas l'enseignement seul qui serait déterminant, mais l'expérience personnelle avec Dieu. La filiation divine constitue en effet le commencement de notre vie de croyant. Le commencement avec Dieu qui nous permet de suivre ce chemin nouveau et vivant en tant qu'êtres humains qui sont nés de nouveau et qui n'ont donc aucune difficulté à parcourir ce chemin nouveau et vivant avec le Seigneur. Cela m'a fait penser à deux ou trois passages de l'Évangile selon Jean, plus précisément au chapitre 1, Jean chapitre 1. Lisons ici le verset 13. Jean chapitre 1, verset 13. Oui, peut-être devrions-nous lire également le verset 12 pour mieux comprendre le contexte. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, à savoir à ceux qui croient en son nom. Mais ce n'est pas tout, cela continue, il n'y a pas de point. Verset 13, qui ne sont pas nés du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté d'un homme, mais qui sont nés de Dieu, qui sont nés ou engendrés ou, oui, engendrés ou nés de Dieu. La vraie foi en Jésus-Christ implique cette expérience avec le Seigneur, à savoir que nous sommes nés de nouveau et que nous avons ainsi obtenu la filiation divine et reçu l'esprit de filiation afin de pouvoir dire « Abba, Père ». Romains 8, verset 15. Dans l'Évangile selon Jean, chapitre 3, je lis ce verset dans la traduction de Menge avec une satisfaction immédiate, car parmi les 15 traductions que je possède, c'est celle qui rend le mieux la pensée. Jean, chapitre 3, verset 15. Afin que tous ceux qui croient en lui aient la vie éternelle. En lui est la vie éternelle, en lui. Une parole tout à fait merveilleuse. C'est là que réside le cœur du sujet. Ne pas seulement avoir la vie éternelle de manière générale, mais avoir la vie éternelle en lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Et il a dit, je suis venu afin qu'ils aient la vie et qu'ils l'aient en abondance. Verset 15, afin que tous ceux qui croient en lui aient en lui la vie éternelle. Encore un passage tiré de Jean 3, verset 36, tout aussi précieux et qui mérite d'être considéré dans son contexte. Jean 3, verset 36. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle, mais celui qui désobéit au Fils, mais celui qui demeure désobéissant au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Nous remarquons ici que l'obéissance s'ajoute à la foi. Partout, on dit simplement celui qui croit au Fils de Dieu à la vie éternelle. Très beau. Mais là encore, la réflexion ne s'arrête pas là. Je relis. Celui, verset 36, celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Mais celui qui demeure désobéissant au Fils, à quoi sert une foi accompagnée de désobéissance? Si la désobéissance est aussi grave que le péché de sorcellerie et nous sépare directement de Dieu, celui qui reste désobéissant de Dieu, désobéissant au Fils de Dieu, l'avons-nous bien compris? Il y a tant de gens qui disent qu'ils croient. Et quand on leur annonce la parole, ils ont besoin de ceci et de cela, et au final, ils n'ont presque rien à faire. Ils peuvent rester tels qu'ils sont et pensent ainsi obtenir le salut. Non, nous sommes reconnaissants à Dieu de nous avoir montré ce chemin étroit et vivant. Verset 36, celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Et celui qui croit vraiment en lui suivra ses traces avec obéissance, comme il est écrit, et il suivait l'agneau partout où il allait. Donc, l'obéissance doit donc s'ajouter à la foi dans notre vie. Ce ne sont pas mes propres réflexions qui sont exposées ici, mais la sainte parole du Seigneur jusqu'à ses dernières conséquences. Jusqu'à ses dernières conséquences. Verset 36. Mais celui qui reste désobéissant au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Ainsi, la foi en Jésus-Christ implique la vraie foi qui s'est révélée à nous et a accompli son œuvre en nous, que nous sommes devenus enfants de Dieu afin de servir et de suivre le Seigneur dans l'obéissance. Verset 36, celui qui croit au Fils a la vie éternelle, mais celui qui reste désobéissant au Fils ne verra pas la vie. Une parole très grave. Combien de fois me demande-t-on, est-ce vraiment nécessaire? Faut-il se faire baptiser? Ce sont toujours ce genre de questions qui nous sont posées. Les sœurs demandent si les cheveux longs sont absolument nécessaires. Et vous savez, il en va de même pour les vêtements. Peut-on encore porter ceci ou cela ou non? S'il y a une question, c'est que nous devons de toute façon y prêter attention, car cela signifie que nous n'avons pas encore reçu la réponse de Dieu et qu'il y a donc encore de la désobéissance. Ce n'est qu'alors, lorsque nous pouvons accomplir de tout cœur la volonté de Dieu dans tout ce qui nous est dit par sa parole, que nous sommes sur la bonne voie et que nous nous tenons correctement devant notre Dieu. C'est aussi ce que j'ai dit là-bas à Breslau. Je me souviens avec plaisir de ce beau moment. C'était vraiment extraordinaire, où un juif, mais un véritable Israélite est venu me voir après la prédication et il a levé les yeux vers ici, il ne me regardait pas, mais il regardait mon front. Il regardait ici et il s'exprima. Et il s'exprima mi-allemand, mi-yiddish, en disant, Dieu t'a donné un coup solide. Il voulait sans doute dire, Dieu t'a donné une voix puissante. Mais je voulais simplement dire, il s'agit simplement de comprendre que la parole de Dieu ne nécessite plus aucun commentaire. Il fallait simplement que je le dise et je me répète volontiers ici. Aujourd'hui, nous n'avons besoin d'aucun commentaire sur quoi que ce soit qui nous ait déjà été transmis clairement et sans ambiguïté dans la Bible. Pas même sur l'habillement, ni sur ce que les enfants de Dieu doivent faire devant le Seigneur. En réalité, il n'y avait plus rien à écrire. Tout a déjà été éclairé. Tout a déjà été consigné par écrit. On prêche afin que les gens sachent, ou du moins qu'on leur rappelle ce que Dieu attend réellement de nous et ce qu'implique le fait de marcher en suivant le Seigneur, à la suite du Seigneur. Nous avons déjà lu ici, il y a quelque temps, ce passage tiré de l'Évangile selon Jean, au chapitre 5, mais j'aimerais le relire. Jean 5, versets 39 et 40, même si cette fois-ci l'accent doit être mis sur le verset 40. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez y trouver la vie éternelle et ce sont elles qui rendent témoignage à mon sujet. Verset 40. Mais malgré cela, vous ne voulez pas venir à moi pour avoir véritablement la vie. Il s'agit simplement de cela, en tant que personne devenue croyante, que nous ayons réellement un lien avec Dieu, que nous fassions l'expérience de la communion avec lui à partir de la nature même de Dieu et que nous sachions que nous ne nous contentons pas de croire et d'accepter avec notre intelligence ce que Dieu a fait et dit, mais que nous le vivons et le mettons en pratique. Dans 1 Roi 17, un passage également très connu, je voudrais lire le dernier verset. 1 Roi, chapitre 17, le dernier verset, lui aussi très connu, le verset 24. Alors la femme, donc 1 Roi 17, verset 24, alors la femme a répondu à Élie, « Oui, je sais maintenant que tu es un homme de Dieu et que la parole du Seigneur dans ta bouche est vérité. » Cela faisait également partie de ce qui a été dit ou exposé ici. Nous savons tous que la parole de Dieu est la vérité. Et ce qui est écrit dans la Bible est oui et amen. Mais quand cela sort de ta bouche, de ma bouche, de la bouche d'un prêtre catholique, de la bouche de toutes les dénominations, qu'est-ce que cela représente alors? Qu'est-ce que cela représente alors? Ici, une femme a pu dire, au verset 24, « Oui, maintenant je sais que tu es un homme de Dieu et que la parole du Seigneur est dans ta bouche, non seulement dans la Bible, non seulement dans la bouche des prophètes, non seulement dans la bouche des apôtres, non seulement dans le Nouveau ou l'Ancien Testament, mais que cette même parole de Dieu, lorsqu'elle est proclamée par nous, est et reste la même vérité divine. » c'est en effet le désir de mon cœur. Et je crois que tout homme qui a jamais été appelé par Dieu à proclamer sa parole doit être conscient que nous ne pouvons pas simplement dire et écrire ce que nous voulons au sujet de la parole de Dieu. Si nous prêchons et si nous écrivons, alors il faut prêcher ce que les hommes de Dieu ont prêché et écrire ce qu'ils ont écrit. Il doit y avoir une concordance à 100% avec cela. Je l'ai encore dit hier à un mormon qui voulait me proposer de croire plutôt en Joseph Smith. Je dois dire honnêtement que je suis resté poli, mais je ne l'ai pas laissé placer un mot. Parfois, c'est inévitable. On peut rester poli, mais quand on a mieux à dire que celui qui, dans ce cas, doit écouter, on a le droit de parler sans retenue. Et je n'ai tout simplement pas arrêté de parler jusqu'à la fin. Puis je lui ai dit au revoir. Mais cela a été toute une prédication. À la fin, j'ai simplement ajouté, Dieu n'a rien oublié. J'ai dit, ne croyez surtout pas qu'il ait eu besoin d'un prophète au 16e, 17e ou 18e ou 19e siècle ou à n'importe quelle autre époque pour rattraper ce qui avait été oublié auparavant. J'ai dit, tout ce que Dieu a prévu pour nous est contenu dans la Bible, tant dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament. Et c'est ce que nous croyons aussi de tout notre cœur et de toute notre âme. Tite, chapitre 1, versets 1 à 3. Moi, Paul, un serviteur de Dieu et un apôtre de Jésus-Christ, pour la foi des élus de Dieu, et pour la connaissance de la vérité qui se prouve par une marche dans la piété. Verset 2. En raison de l'espérance de la vie éternelle que le Dieu infaillible a promise depuis toute éternité. Verset 3. Mais il a manifesté sa parole au temps fixé par la prédication qui m'a été confiée dans le mandat divin de mon Sauveur. De notre Sauveur, plutôt. La vie éternelle était déjà promise depuis toute éternité. Elle s'est manifestée en Jésus-Christ, notre Seigneur. Et lorsque nous considérons le chemin de Dieu avec l'humanité, nous devons dire ceci. Seul celui que Dieu inclut dans son plan comprend de quoi il s'agit réellement. Tous les autres restent à l'écart, restent au dehors, observent, secouent la tête, s'étonnent peut-être encore, sans avoir de part directe à ce que Dieu a préparé pour nous. Pour en revenir à la professeure juive qui a accordé cette interview mercredi dernier. Le voile pèse encore sur Israël. Tout comme Joseph ne s'est révélé à ses frères qu'à la deuxième fois, de même, Israël ne reconnaîtra le Seigneur et Sauveur que lorsqu'il viendra vers eux une seconde fois et qu'ils lèveront les yeux vers celui qu'ils ont transpercé et ils se lamenteront comme on se lamente sur le Fils unique. Tout en son temps. Paul l'a si magnifiquement expliqué dans la lettre aux Romains au chapitre 11. Je voudrais justement vous lire ce verset ici, Romains Chapitre 11, verset 15. Car si leur rejet a conduit à la réconciliation du monde, que sera donc leur acceptation sinon la vie d'entre les morts? Dieu en a simplement décidé ainsi, car dans son plan, ce n'est pas seulement un peuple qui devait être sauvé et béni, mais comme il l'avait promis à Abraham, en toi seront bénies toutes les races de la terre, pas seulement un peuple, tous les peuples, toutes les langues et toutes les nations sont destinées par Dieu à être sauvés à leur tour, à condition qu'ils croient, qu'ils se mettent à la disposition du Seigneur et qu'ils lui consacrent leur vie de tout leur cœur sans s'obstiner à suivre leur propre voie. La voie de Dieu est tout à fait différente de ce que nous imaginons souvent. Mais j'ai également réfléchi à ce sujet. Dans l'Ancien Testament, les promesses concernant la première et la seconde venue du Christ sont si étroitement liées qu'elles ont été prononcées d'un seul souffle. Et l'on ne pouvait pas imaginer qu'un intervalle de temps s'intercalerait entre les deux. On s'attendait donc à tout d'un seul coup. Même les disciples ont demandé, « N'est-ce pas en ce moment que tu vas rétablir le royaume d'Israël ?» Acte 1, verset 6, ils pensaient que le royaume allait être rétabli. Il le sera, mais seulement lorsque le temps de la grâce sera terminé, lorsque tout aura trouvé sa place selon le déroulement du plan divin du salut. Comme nous l'avons dit déjà à maintes reprises, quelle reconnaissance pouvons-nous éprouver que Dieu nous ait arrachés à toute confusion, à toutes nos propres réflexions et enseignements, qu'il nous ait placés au cœur de sa parole et qu'il ait oint nos yeux d'une onction sainte afin que nous le reconnaissions et que nous comprenions son plan pour nous et avec nous. Je repense alors à la parole de Jean 17 ainsi qu'au passage parallèle de 1 Jean 5, car l'un traite de notre Seigneur et de la nature de sa révélation en tant qu'homme, tandis que l'autre traite de notre intégration dans ce grand plan de Dieu. Jean 17, verset 3. Jean 17, verset 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. 1 Jean, chapitre 5, un passage que nous connaissons tous très bien, 1 Jean, chapitre 5, verset 20. Mais nous savons que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour que nous connaissions le véritable. Et nous sommes dans le véritable, en son Fils, Jésus-Christ. Celui-ci est le Dieu véritable et la vie éternelle. Nous voyons pourquoi la révélation de Dieu en Christ était nécessaire pour nous y associer, nous y inclure. Il peut nous être difficile de comprendre comment Frère Branham l'a tant souligné ce qu'implique l'élection et la prédestination en référence au passage d'Éphésiens chapitre 1 que nous connaissons tous très bien. Éphésiens chapitre 1, verset 4, principalement le verset 4, oui, car c'est en lui qu'il nous a choisis avant même la fondation du monde, afin que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Beaucoup sont troublés par cette élection avant la fondation du monde. Mais voyez-vous, si nous considérons maintenant l'ensemble de la race humaine, qui, je crois, compte actuellement environ 6 milliards de personnes environ, et si l'on remonte ensuite dans le temps jusqu'à ses origines, alors de nombreuses personnes sont nées dans ce monde et en sont également parties. Mais à l'origine, ils étaient tous déjà en Adam. C'est en Adam que tout a commencé. Le commencement avait été établi en lui. Ainsi, de par Dieu, nous étions en Christ, nous étions en lui. Puis il s'est manifesté dans la chair, afin que nous qui sommes ici dans la chair puissions croire, recevoir la vie éternelle, obtenir la filiation. Et ainsi, qu'il soit le premier-né et que nous soyons les premiers-nés. Et tout comme il a été choisi avant la fondation du monde, comme l'écrit Pierre et comme il est également écrit dans l'Apocalypse, nous aussi, nous avons été choisis avant la fondation du monde, à savoir pour croire, comme le dit l'Écriture, pour suivre le Seigneur dans l'obéissance, pour faire ce que nous savons être juste devant Dieu et pour éviter ce dont nous savons qu'il ne nous permettra pas de paraître juste devant lui. Si donc Dieu peut mettre dans nos cœurs cette crainte de Dieu qui est la sienne, non pas la crainte du châtiment, mais le respect devant le Dieu vivant, la crainte devant le Dieu vivant dont la parole nous parle et dont la semence divine nous a fait naître de nouveau pour être de la même nature que lui. Combien de fois l'avons-nous dit ici? J'ai d'ailleurs lu ce verset de Jean 20 dimanche en dernier. Jean 20, verset 17. Je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et vers votre Dieu. Cette parole n'est pas seulement là pour que nous la lisions ou même que nous en discutions. Il nous a ainsi été clairement dit, de même que le Christ a été engendré par Dieu en tant que Fils et qu'il l'appelait son Père céleste. De même, nous sommes engendrés par Dieu par cette même parole et ce même esprit et nés de nouveau pour une espérance vivante. Et dans cette perspective, Jésus-Christ est le premier-né parmi de nombreux frères. Nous croyons en l'unité, mais nous croyons que le Dieu unique se révèle au ciel en tant que Père, sur terre dans le Fils et dans l'Église par le Saint-Esprit, tout en restant toujours le même. C'est précisément pour pouvoir mener à bien et parachever son propre plan de salut qu'il s'est révélé de cette manière. Lorsque viendra alors l'accomplissement, l'achèvement, donc s'accomplira ce qui est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 23, et plus particulièrement au verset 28. alors le Fils lui-même se soumettra à celui qui lui a tout soumis, et alors Dieu sera tout en tous. Tout comme il en était ainsi dans l'éternité, avant que Dieu, en tant que Logos, ne sorte de la plénitude originelle pour agir, ainsi la révélation de Dieu y aboutira à nouveau. Et c'est pourquoi Jésus a dit à plusieurs reprises, « Croyez-moi, je suis sorti de Dieu. Je suis sorti de Dieu. Je suis tellement reconnaissant envers le Seigneur que ce ne soit pas seulement un enseignement, c'était une révélation de Dieu destinée à un but précis dans le Fils ici sur terre afin de conduire les fils et les filles de Dieu à la gloire. » Et c'est précisément cela que nous n'avons pas seulement compris d'un point de vue doctrinal, mais que nous avons pu vivre par grâce. Et nous pouvons dire avec Jean, ce que nous serons n'a pas encore été révélé, mais quand cela sera manifesté, nous serons semblables à lui. Dans l'Épître aux Hébreux, nous avons lu qu'il est devenu un souverain, sacrificateur, fidèle, établi par un serment dans l'Ancien, Testament, ils allaient et venaient. La mort les remplaçait sans cesse. Ici, il y en a eu un qui certes est mort dans sa chair, mais qui a ensuite arraché l'aiguillon de la mort, a privé la mort de son pouvoir et a mis en lumière une nature et une vie impérissable pour tous ceux qui sont ressuscités avec lui à une vie nouvelle par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Je voudrais lire à ce sujet un passage de l'Épître aux Colossiens. Colossiens, chapitre 2. Quelle parole magnifique! Oh, si seulement pouvait se réaliser ce que nous allons lire ici au verset 10, puis dans la suite du texte. Colossiens 2, à partir du verset 9. Colossiens 2, verset 9. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Verset 10. Et vous possédez toute cette plénitude en lui qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Non seulement la plénitude de Dieu habitait en Christ dans le corps humain ici sur terre, mais cette même plénitude de Dieu qui était en Christ a pris demeure dans l'Église du Seigneur depuis la Pentecôte. Verset 10, et vous possédez toute la plénitude, pas seulement une partie de cette plénitude. On pourrait certes dire, en Christ se trouvait toute la plénitude, et dans l'Église une fraction ou un peu de cette plénitude. Mais ce n'est pas ce qui est écrit ici. Je relis, verset 9. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Verset 10. Et vous possédez toute la plénitude en lui qui est le chef de toute domination et de toute autorité. C'est en lui aussi, au verset 11, que vous avez reçu la circoncision, non pas celle qui s'accomplit par les mains, mais celle qui consiste à se dépouiller de la nature charnelle, la circoncision du Christ. Verset 12. Puisque vous avez été ensevelis avec lui dans le baptême, c'est en lui aussi que vous avez été ressuscités par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité d'entre les morts. Ici encore, la parole ne s'exprime pas au futur, mais comme il est digne de Dieu et conforme à lui, c'est accompli, c'est fait. Laissons simplement Dieu agir en nous, ce qui opérer en nous, ce qui est déjà depuis longtemps une réalité divine, afin que cela puisse se manifester à travers notre vie. Au verset 13, il est écrit, « Vous aussi, qui étiez morts à cause de vos transgressions et de l'incirconcision de votre chair, Dieu vous a rendus vivants avec lui en nous pardonnant toutes nos transgressions par sa grâce. » Alléluia! Cela aussi est vrai. Mais bien-aimés, puisse l'Esprit de Dieu réussir aujourd'hui à nous faire franchir ce seuil. Il ne suffit pas seulement que nous l'entendions, l'écoutions. Il faut aussi qu'il y ait une adhésion intérieure à l'écoute, puis l'attente que la parole de Dieu s'accomplisse, car elle n'exprime que des réalités divines et rend compte de ce qui s'est véritablement passé. Dieu était en Christ et a réconcilié le monde avec lui-même. Il a ôté de nous nos transgressions. Il a acquitté notre dette. Il a pardonné le péché. Quiconque en doute mourra dans son péché. Non pas parce qu'il n'aurait pas été pardonné et que ses péchés n'auraient pas été effacés, mais parce que dans ce cas, il n'a pas revendiqué ce pardon pour lui-même. Le plus grand des dons doit être accepté. Oh, je me répète volontiers, que Dieu nous accorde la grâce, non seulement de lire, d'entendre et de méditer ces choses, mais aussi de les vivre intérieurement, de les expérimenter et de dire, Seigneur, tu as fait cela pour moi-même. Tu as fait cela pour moi aussi. J'appartiens à la multitude que tu as rachetée. Je suis à toi. J'ai été enseveli avec toi. Et je suis ressuscité avec toi pour une vie nouvelle. Poursuivons notre lecture de ce chapitre au verset 14. Verset 14. En effaçant et en supprimant l'acte d'accusation qui pesait contre nous par ses commandements et qui constituait un obstacle à notre salut, en le clouant à la croix. Quelle que soit l'ampleur de la faute, nous sommes libres. Comme cela a été dit à Moïse dans l'Ancien Testament, compte sept sabbats et le jour qui suit le septième sabbat, tu sonneras de la trompette et tu proclameras l'année du jubilé. Lévitique 25, versets 8 à 10, c'était l'année du jubilé du Seigneur, l'année favorable, agréable au Seigneur. Chacun, quel que soit le nombre de titres de créance, quelle que soit l'ampleur de la dette, lorsque venait l'année de la rédemption, l'année du jubilé, également appelé année de la joie dans la tradition juive. C'était tout de même une raison de se réjouir. Tous ceux qui étaient asservis, ceux qui étaient endettés et ne pouvaient lever la tête comptaient pourtant les années, puis les mois, puis les semaines, puis les jours. Et en ce jour précis, lorsque les trompettes retentissaient et que l'année du Seigneur était proclamée, plus personne ne se souciait de ses dettes. La dette était effacée. Les débiteurs étaient libres. Mais, chers amis, la proclamation de l'Évangile est un acquittement divin pour tous ceux qui croient de tout leur cœur en Jésus-Christ comme leur Sauveur et Rédempteur et Seigneur personnel. Et à cette foi s'ajoute alors l'obéissance. Après la conversion, après être devenu croyant, vient le baptême d'eau. Puis avec le baptême, le chemin de l'obéissance avec le Seigneur dans tous les domaines. Je vais encore lire le verset 15 de Colossiens 2, car il s'inscrit tout naturellement dans ce contexte. Colossiens 2, verset 15. Après avoir ainsi complètement désarmé les puissances et les autorités, il les a exposées publiquement et a triomphé d'elles en lui. Amen. Dieu a triomphé en Christ de toute la puissance de Satan. Nous avons, et j'espère que ce sermon n'arrivera pas dans cette maison en particulier. Si c'est le cas, cela m'est égal. Mais il y avait une sœur très chère qui était cruellement tourmentée par l'ennemi, année après année. Chez elle, dans son appartement, c'était littéralement le chaos. Tantôt, il perçait des trous, tantôt, il se passait toujours quelque chose de complètement différent. Il faisait irruption, démontait les lits et les remontait en place sans fin. C'était tout simplement le chaos. Je me suis dit en mon fort intérieur, si cette sœur venait un jour à professer sa foi en la puissance de Dieu et à renier la puissance de Satan qui est pourtant vaincu, alors la puissance de Dieu pourrait se manifester et triompher de toutes les ruses du diable. Et voilà que cela s'est produit. Et je raconte cela avec un cœur très très joyeux, car j'ai suivi cette affaire de près, année après année, en la revivant sans cesse. La sœur ne pouvait pas rester chez elle. Elle voulait passer la nuit ici, puis là, et allait de porte en porte, de frère et sœur en frère et sœur, car le diable était avec elle et chez elle. Et voici, il arriva que le Seigneur en est ainsi décidé. Il y a peu de temps, nous sommes rendus dans cet appartement avec quelques frères. Et nous nous y sommes rendus, non pas forts en nous-mêmes, mais pleinement convaincus de la victoire de Dieu sur la croix à Golgotha, en Jésus-Christ notre Seigneur. Et que puis-je vous dire, cette sœur est désormais devenue un rayon de soleil, un témoignage vivant de ce que Dieu a accompli en elle. Il n'y a plus eu un seul phénomène paranormal. Toute cette hystérie était terminée. Le Seigneur a manifesté sa victoire. Mais bien aimé, nous pouvons tout de même croire Dieu sur parole. Tout ce que fait le diable n'est que mensonge. Vous ne devez absolument pas croire ce qu'il fait. Même si cela se produit, rejetez-le et ne l'acceptez pas. C'est en effet la seule voie. Si nous nous laissons entraîner par ce que fait le diable, ce ne sont après tout que des illusions qu'il fait croire aux gens. Je suis déjà allé ici et là, mais chaque fois que je suis venu, les choses ne se sont jamais produites. Elles se sont toujours produites avant mon arrivée. Mais quand elles nous arrivent à nous, c'est à dire pour le bien, pour que le mal touche à sa fin. Combien de fois les gens sont-ils tourmentés? Ils ne savent plus où donner de la tête. Et quand vient le moment où la foi devient révélation, où elle pénètre véritablement dans le cœur et où Dieu peut révéler sa glorieuse victoire. Alors, nous sommes tous heureux. Nous ne nous contentons pas de chanter « Jésus est vainqueur ». Nous y croyons. Et comme ce serait beau si nous déclarions que tout ce qui n'est pas de Dieu n'existe pas. Tout ce qui ne vient pas de Dieu n'existe pas. Et que ce qui est de Dieu, ce qui vient de Dieu, est déjà là. En regardant l'invisible comme si nous le voyons, nous considérons les choses qui viennent de Dieu comme existant déjà et en lui faisant entièrement et totalement confiance afin qu'il puisse manifester dans nos vies à tous la victoire qu'il a remportée pour nous sur la croix à Golgotha. Dans notre vie à tous. Mes chers amis, résumons brièvement ce que nous avons médité ensemble ici aujourd'hui. D'une part, nous vivons une époque grave, une époque semblable à celle de Sodome et Gomorre, une époque où les gens ne veulent plus se laisser corriger par l'Esprit de Dieu. Pas même les croyants. On peut leur lire la parole de Dieu, mais ils cherchent sans cesse des prétextes et veulent trouver une voie qui n'existe pas. Il n'y a qu'un seul chemin, et c'est notre Seigneur lui-même qui a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Il dit, vous sondez les Écritures, pensant y trouver la vie éternelle. Et ce sont elles qui rendent témoignage à mon sujet. Mais vous ne voulez pas venir à moi pour recevoir la vie éternelle. Nous voyons que les hommes cherchent et suivent leur propre chemin qui mène à la perdition. Puis nous voyons un reste. qui ne trouve pas sa place dans ce monde, qui ne peut pas vraiment y être classé, dites-le en toute honnêteté. Où y a-t-il de la place pour nous dans aucune dénomination, aucune organisation, nulle part, il n'y a de place pour nous. Mais dans l'Église des premiers-nés, nous avons trouvé notre place et nous en rendons grâce à Dieu. Je crois que nous pouvons affirmer avec assurance, même si des menaces sont proférées par le Vatican, le Seigneur sera avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je me suis rendu récemment dans le Burgenland à l'occasion de la réunion à Pressburg. Et écoutez, sans vouloir critiquer un peuple ou un pays, cela se passe peut-être partout, mais là-bas, le curé qui dispensait l'enseignement religieux à l'école, les enfants étaient présents dans la maison. Le curé m'a rapporté ce qui suit. Le curé qui dispensait l'enseignement religieux a posé la question suivante. Quelle erreur a été commise lors du concile de Constance? Et ceux qui étaient au courant ont certainement répondu qu'on avait brûlé Hus sur le bûcher. Et savez-vous ce qu'a dit le prêtre? Non, ce n'était pas ça l'erreur. L'erreur, c'est que seul Hus a été brûlé sur le bûcher et non tous ses successeurs, tous ceux qui suivaient son enseignement. Vous comprenez bien? Maintenant, tout n'est pas toujours dit ouvertement. Hein. Certains sont plus avisés, ils gardent cela pour eux. D'autres bavardent à l'école ou en sortant de l'école, car ils ne s'attendent pas à ce que cela soit entendu ou répandu quelque part. Mais croyez-moi, nous allons probablement entrer dans une période d'épreuve très brève et très grave. Et si cela est ainsi voulu par le Seigneur, voyez, Dieu y a pourvu. À l'époque, Martin Luther l'avait déjà dit, après que Hus eut été brûlé. Ils ont condamné à mort une petite oie, mais un grand signe apparaîtra sur lequel ils n'auront aucun pouvoir. Dieu s'est servi de différents hommes à différentes époques. Et nous vivons aujourd'hui les jours de l'achèvement de l'œuvre de Dieu. Et puisse-t-il plaire au Seigneur de tous les seigneurs et au chef de l'Église de mener son œuvre à son terme en ces jours et de nous accorder courage et joie. Que personne ne s'inquiète pour l'avenir. À chaque jour, sa force. Le moment venu, Dieu nous donnera la puissance de tout surmonter ou de persévérer jusqu'à ce que nous passions effectivement de la foi à la vue. Il nous accordera la force nécessaire. Dans cette assemblée également, dans cette réunion aujourd'hui, nous ne devons pas manquer de remercier Dieu d'avoir envoyé son serviteur et prophète, notre bien-aimé frère Branham, au sein de notre génération, afin de nous faire prendre conscience de choses qu'aucun homme n'aurait pu connaître ni nous révéler. Il fallait un ministère prophétique en cet âge prophétique pour apporter à nouveau au peuple toute la parole éclairée d'en haut par la révélation divine. Heureux ceux qui l'entendent, qui y croient et qui l'accueillent. Puisse la parole devenir une réalité divine en chacun de nous. Et puisse Dieu entamer une marche triomphale dans son Église jusqu'à ce que nous passions de la foi à la vue. À lui, le Dieu Tout-Puissant, soit la louange et l'honneur, la gloire et l'adoration, maintenant et pour l'éternité. Amen. Levons-nous, Père Céleste, aujourd'hui nous voulons t'offrir notre action de grâce d'une seule voix, d'une seule bouche, d'apporter la reconnaissance, Seigneur bien-aimé. Tu as accompli de grandes choses. Tu n'as pas seulement fait des promesses, tu les as accomplies. Tu les as réalisées. Nous aussi, nous pouvons proclamer, je sais que mon Rédempteur est vivant. Seigneur, tu es le même. Seigneur, présent, ressuscité, monté au ciel et qui reviendra bientôt. Règne au milieu de nous. Place tous les ennemis que tu as vaincus comme marchepieds sous tes pieds, Seigneur. Nous proclamons la victoire de Dieu qui est accompli en Christ sur la croix à Golgotha. Satan, prends en bonne note, soumets-toi, retire-toi. Tu as perdu tout droit sur tous les enfants de Dieu. Ils sont libres. Sois loué et glorifié, ô Seigneur, maintenant et pour l'éternité. Fidèle Sauveur, accorde-nous, en plus de la foi vivante, l'obéissance à une vie avec toi, ô Seigneur. Conduis-nous sur le droit chemin à cause de ton nom. Et sois avec nous tous. Ensemble, nous te remercions également de nous permettre de reconnaître les signes des temps et le message de l'heure. Ô Seigneur bien-aimé, ainsi que ton action en nos jours, nous te remercions de nous permettre par grâce de faire partie de ton plan divin de salut, de faire partie de ton Église épouse. Puisse toute la plénitude de la divinité, ô Seigneur, telle qu'elle s'est manifestée et a habité en toi, ici sur terre, dans un corps de chair, sous une forme humaine, que cette même plénitude, que toute cette plénitude habite en ton Église et se manifeste à travers elle jusqu'à ce que la victoire totale de Dieu soit accomplie et qu'aucun ennemi ne se lève plus, mais que tous se soient prosternés et soumis au marchepied de tes pieds. Seigneur bien-aimé, le ciel est ton trône et la terre le marchepied de tes pieds. Ici, sur cette terre, tu réaliseras ta victoire et tu l'achèveras, tu la manifesteras, tu l'achèveras, tu couronneras ton peuple par un triomphe. Puis tu le feras entrer dans le changement, dans la transformation et l'enlèvement. Seigneur, nous te louons et nous te remercions. C'est une réalité pour nous. Nous te contemplerons, nous serons semblables à toi, car nous te verrons tel que tu es. Sois loué et glorifié. Merci pour Golgotha. Merci pour le sang saint de l'agneau. Merci pour la parole sainte de Dieu. Merci pour le Saint-Esprit. Seigneur, nous te remercions en tant que ton peuple, de tout notre cœur et de toute notre âme, pour tout cela. Au nom saint de Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen.